seconde partie de cette édition qui s'ouvre avec le dossier du jour. Une mission de pacification mixte gouvernement provincial MONUSCO s'est rendue la semaine dernière dans la chefferie de Buito, c'est environ 150 km nord-ouest de Goma, en territoire de Rutshuru. La mission entendait sensibiliser les communautés ethniques locales en conflit depuis 2 ans à enterrer la hache de guerre et vivre de nouveau ensemble. C'est ce que nous raconte Freddy Bikumbi.
Kikuku était, depuis plusieurs mois, divisé en 2 quartiers séparés par une barrière érigée en plein centre de la cité, un quartier pour les Nandehunde et un autre pour les Hutu. La violation des limites par l'un ou l'autre camp suscitait des tensions dans le village. La délégation mixte du gouvernement provincial MONUSCO, partie de Goma le 10 décembre dernier, avec les chefs locaux et leaders religieux, ont pu réunir ces populations en conflit. C'était au bureau de la chefferie. Après plusieurs heures de discussion, ces communautés ont pu aplanir leurs divergences et lever la barrière physique qui les séparait. Écoutez la réaction de Singene Baloume Jonas, un des habitants de Kikuku.
Il y aura changement. Les Hunde, les Nande, les Kobo, les Nyanga sont obligés d'aller sensibiliser ces fils-là de cesser avec la guerre. Mais les Hutus aussi vont essayer de sensibiliser le groupe armé là-bas.
Les tensions dans la chefferie de Buito sont aussi alimentées par les groupes armés d'obédience ethnique, Nyatura pour les Hutus et Mai Mai Mazembe pour les Nande et Hunde. Suite aux actes de représailles ciblés de ces groupes armés, les mouvements des populations qui s'en sont suivis ont renforcé la division. Une approche de résolution des conflits par les moyens de l'évangile a atténué la situation après presque 6 mois de division. Les leaders des différentes confessions religieuses de ces entités se sont mis dans une sensibilisation sur le respect de la vie humaine. Pendant une semaine, quelques familles Nandais vivant à Bwalanda sont arrivées à Nyanzale le jeudi. Ils y ont été bien accueillis et d'autre part, quelques Hutus de Somikivu étaient partis à Bwalanda le mercredi dernier pour une séance d'échange et de convivialité. Abbé Innocent Gakuru, curé de la paroisse de Katwe.
S'il faut que tout le monde se centre sur le respect de la vie comme don par excellence que Dieu nous a donné, et je crois que en respectant ce don de la vie, il y a lieu d'avoir la paix.
Les problèmes de tuerie et kidnapping sur l'axe Nyanzale, Kikuku et Bwalanda ont fait que ces tronçons, longs de 20 km, ne soient plus fréquentés par des civils pendant plus de 4 mois. Après la sensibilisation de ces leaders religieux, quelques taximens, motos et piétons sont maintenant visibles sur cette route depuis le week-end passé. Elias Kambale Shangombe, acteur de la société civile dans cette chefferie, témoigne.
Il faudra que le gouvernement fournisse un grand effort pour vraiment réouvrir ces tronçons et pour que les gens arrivent à passer comme d'habitude, mais sinon vraiment c'est très dangereux à cause de ce groupe d'armées qui sont là.
Restez que les travaux de pacification se poursuivent. Certains villages de Buito sont totalement désertés de leurs occupants. C'est notamment à Katolo, Kachalira, Luchebere et Kishiche. Toutefois, il y a à espérer qu'avec ce travail abattu, notamment par les serviteurs des dieux, la cohabitation entre ces communautés est possible si le gouvernement congolais s'y implique, estime Elias Kambale Shangombe de la société civile de Buito.
Revue de presse.
L'appel des laïcs pour le 31 décembre, debout congolais, lèvons-nous et marchons. L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la Mongala et au Kasaï central sont les deux grands titres des journaux parus ce matin à Kinshasa. Jean-Désiré Kanyama.
Le potentiel titre à la une, l'appel des laïcs pour le 31 décembre, debout congolais, lèvons-nous et marchons. Les laïcs catholiques sont déterminés à aller jusqu'au bout pour, disent-ils dans leur dernier appel, sauver le Congo, notre patrimoine commun, dans le respect sacré des personnes et des biens. Et à scoop.rdc.net de renchérir en écrivant qu'en ce jour du 31 décembre 2017, coïncidant avec l'an 1 de l'accord de la Saint-Sylvestre, les laïcs catholiques appellent à une marche populaire pour manifester le ras-le-bol des Congolais contre le pouvoir qui a décidé de prendre le pays en otage. Mais le potentiel conclut cet appel, lèvons-nous et marchons pour libérer l'avenir et faire de notre pays une terre de paix, de dignité et d'hospitalité et de progrès pour tous. En rapport avec l'élection du gouverneur hier dans la Mongala, actualité.cd écrit à la une: le candidat MP Luimbonga élu gouverneur. Le candidat de la majorité présidentielle a largement battu Sylvain Lissassi, 22 voix sur 24. Ancien secrétaire général au ministère des Finances, le nouveau gouverneur a également occupé le poste poste de ministre provincial dans l'ancienne province de l'Équateur. Et à ce propos, au Kasaï central, le potentiel écrit « Se servant de moyens d'État, la majorité présidentielle impose son candidat. 12 députés provinciaux ont voté pour Denis Kambay, contre 10 pour son challenger, l'indépendant Martin Kabuya. » Les habitants, eux, écrit le potentiel, veulent voir le nouveau gouverneur répondre à leurs besoins, notamment en ce qui concerne les routes et les actions de développement. Et pêle-mêle, les autres journaux et sites reviennent sur les sanctions imposées à Dan Gertler par les États-Unis d'Amérique. Actu.cd écrit à ce propos que l'administration Trump a annoncé hier jeudi un nouveau régime de sanctions visant les acteurs impliqués dans les abus des droits de l'homme et la corruption dans le monde. L'homme d'affaires est également sur la liste des personnes sanctionnées, écrit Actu.cd. Dan Gertler a utilisé son amitié avec le président de la RDC pour agir en tant qu'intermédiaire pour la vente d'actifs miniers dans ce pays. En conséquence, entre 2000 et 2012, la RDC aurait perdu plus de 1,36 milliard de dollars à cause de la sous-évaluation des actifs miniers qui ont été vendus à des sociétés offshore liées à Gertler, affirme l'Office of Foreign Assets Control, OFAC, organisme de contrôle financier dépendant du département du Trésor des États-Unis, cité par Actu. CD. Meurtre des experts de l'ONU, les rapports montrent qu'une implication des autorités n'a été ni prouvée ni exclue. Écrit Depeche.cd qui cite par ailleurs la MONUSCO. Les auteurs de l'enquête affirment que ces éléments de preuve sont contenus dans les dossiers d'instruction, mais ont été jusqu'ici écartés du procès et du rapport du comité d'enquête de l'ONU. Enfin, élection, Lambert Mende a annoncé que le gouvernement congolais a disponibilisé 60 millions de dollars américains pour le processus électoral pour le mois de janvier 2018. Au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa hier jeudi, le ministre de la Communication et des Médias a réaffirmé la volonté de son gouvernement de financer ce processus électoral. Politico.cd précise que Lambert Mende en a profité pour critiquer la communauté internationale qui a conditionné tout appui notamment par la décrispation du climat politique. Leurs promesses sont devenues comme des contes de fées pour enfants, a dit Lambert Mende, cité par Politico.cd.
L'invité.
Comme annoncé, le représentant régional, l'assistant chargé de la protection au bureau du HCR, RDC, est l'invité de la rédaction ce matin. Avec lui, nous faisons le point de la situation des réfugiés en République démocratique du Congo. Olivier Baer apporte également quelques précisions en rapport avec les réfugiés rwandais se trouvant sur le sol congolais. Ils sont traités avec Honoré Missinga Kalala.
Monsieur Olivier Baer, bonjour. Bonjour. Combien de réfugiés rwandais se trouvent encore sur le territoire de la RDC en cette fin d'année et quelle est leur situation?
Selon les dernières estimations du gouvernement, il y a près de 223 000 réfugiés rwandais en République démocratique du Congo, principalement dans le nord et le sud Kivu, mais aussi dans d'autres provinces comme le Tanganyika, le Kasaï oriental, à Kinshasa, à Lubumbashi et ailleurs. Sur ces 223 000 réfugiés rwandais, 42 000 environ ont été biométriquement vérifiés par la Commission nationale des réfugiés avec le support du HCR. Alors, ces personnes ne vivent pas dans des camps, ils sont autonomes, ils ne reçoivent en général pas d'assistance de la communauté internationale, mais nous pouvons de temps en temps leur donner un appui pour une activité génératrice de revenus ou s'ils désirent se rapatrier. Il y a un rapatriement des réfugiés rwandais qui le souhaitent vers le Rwanda depuis 1999 et qui ces derniers temps, ces derniers mois, a connu un certain engouement. Par exemple, rien qu'en 2017, le HCR a rapatrié près de 18 000 réfugiés rwandais au Rwanda, ce qui est plus que dans tous les autres pays de la région.
Alors, M. Olivier, il y a une clause de cessation du statut de réfugié pour le Rwanda qui est en vigueur depuis 2011. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme contenu de cette clause concernant les réfugiés rwandais?
Comme vous le savez, en 1994, suite au génocide qui a eu lieu au Rwanda, plus de 3,5 millions de Rwandais sont devenus des réfugiés, dont la plus grande partie est venue ici en République démocratique du Congo. Et puis il y a eu d'autres réfugiés suite aux affrontements armés dans le nord-ouest du Rwanda en 1997 et 1998. Alors en octobre 2009, le HCR avait annoncé une stratégie visant à mettre fin à la situation des réfugiés rwandais qui avaient fui leur pays avant le 31 décembre 1998. Et cette stratégie que le HCR avait annoncée comprend quatre volets. Le rapatriement volontaire, que nous sommes en train de faire, l'intégration locale pour ceux qui ne veulent pas rentrer chez eux, le maintien du statut de réfugié pour un petit groupe qui ont encore besoin d'une protection internationale, ce sont ceux qui sont exemptés de la clause de cessation, et enfin l'invocation de cette clause de cessation par les pays qui reçoivent des réfugiés rwandais. Et certains pays ont invoqué cette clause de cessation, par exemple la République du Congo voisine, mais la République démocratique du Congo, parce qu'elle a un contexte particulier, c'est elle qui a reçu le plus grand nombre de réfugiés, il faut donc plus de temps pour trouver des solutions, elle n'a pas encore invoqué la clause de cessation.
Cela veut dire que le statut de réfugié est encore applicable aux Rwandais qui sont sur le sol congolais.
Tout à fait. Après le 31 décembre 2017, soit au 1er janvier 2018, les réfugiés rwandais qui se trouvent en République démocratique du Congo sont toujours, aux yeux de la République démocratique du Congo, des réfugiés qui continueront à bénéficier de la protection de la République démocratique du Congo. Donc rien ne se passera pour eux. J'ai entendu dire par certains que le 1er janvier 2018, ils allaient perdre leur nationalité, ils allaient perdre leur statut. Non, rien de cela ne se passera pour eux en République démocratique du Congo.
Parce qu'il semble qu'au 31 décembre 2017, ceux qui n'auront pas regagné le Rwanda ne seront plus considérés comme étant des réfugiés rwandais par le gouvernement rwandais.
Le gouvernement rwandais a toujours dit que les Rwandais pouvaient rentrer chez eux, quels qu'ils soient. Que vous soyez réfugié ou pas, vous êtes Rwandais, vous pouvez rentrer chez vous. Cela ne va pas changer après le 31 décembre 2017.
Alors il faut vraiment faire une nette distinction entre les réfugiés et les combattants, FDLR notamment.
Oui, tout à fait, parce que des fois j'entends aussi des personnes qui parlent de réfugiés armés. Non, à partir du moment où un réfugié prend une arme, il n'est plus considéré au regard du droit international des réfugiés comme un réfugié. Les réfugiés sont toujours des civils. Les FDLR, les groupes armés, ne sont pas des réfugiés. Et en fait, les réfugiés sont même victimes de ces groupes armés. Certains d'entre eux qui viennent dans nos points de rassemblement pour retourner au Rwanda ont peur. Ils ont peur de ces FDLR. Donc vous avez très bien fait de le souligner. Il faut que l'on fasse la part des choses entre les combattants, les groupes armés qui font malheureusement du mal et les civils qui sont les victimes des groupes armés, pris en otage par les groupes armés.
Monsieur Olivier Beyer, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Okapi Sport. Kanis Mukongo, bonjour.
Bonjour Jocelyne Moussaou, bonjour amis sportifs.
Nous commençons par le classement mondial de la FIFA.
La République démocratique du Congo RDC a terminé l'année 2017 à la 39e place au niveau mondial et 4e en Afrique. Classement mondial de la FIFA bien sûr publié hier jeudi. Le pays conserve tout de même sa place au pied du podium africain. Le top 3 africain est occupé par le Sénégal, suivi de la Tunisie, enfin l'Égypte. Les trois mondialistes. Et puis l'Allemagne boucle cette année en tête du classement mondial de la FIFA, suivi de l'Argentine, suivi du Brésil, du Portugal et de l'Argentine. Ligue nationale de football, l'UNAFOOT, on a joué hier dans la zone centre-sud à Kananga, Sedibumba et l'Union sportive Chinkunku de Kananga se sont neutralisés par 1-0 hier au stade jeune de la commune de Katoka, match avancé de la 7e journée du championnat national de football, la division 1. Blaise Donga la couvert pour nous cette rencontre.
La partie très disputée s'est terminée sur le score d'un but partout. Lies Chinkunku était la première à ouvrir la marque à la 29e minute par Simon Louéné. Cette réalisation a fait bouger les supporters du club kananguais qui croyaient déjà faire les breaks. La Sedibumba a réagi à la 47e minute avant que les 22 acteurs soient renvoyés au vestiaire. Ce but est l'œuvre d'Adeba Matondo qui a réussi une retournée acrobatique après un dégagement manqué d'un défenseur de Chinkunku. Avec ce score de parité, la Sedibumba totalise 8 points en cette sortie. Alors que Lies Chinkunku compte désormais 9 points en 6 matchs joués. Il faut également noter que les deux clubs du Kasaï occidental démembré étaient dans leur première rencontre de l'histoire. De Kananga, Blaise Ndongala Mayanda, Okapi Sport.
Restons dans la zone centre-sud pour signaler qu'on a joué à Lubumbashi un seul match. Lubumbashi Sport a perdu face au Tupisa Mazembe 0-2. Le programme de ce vendredi prévoit d'autres rencontres à Lubumbashi. C'est Don Bosco reçoit Océan Pacifique de Mbujumaï, groupe Bazano contre Ecofoot Katumbi. Dans la zone est, Montbleu contre Maniema Union. Et dans la zone ouest, le rendez-vous à ne pas manquer cet après-midi. L'AS Dragon Bilima croise la formation de l'AS Vita Club. Et demain samedi, ce sera le tour du Racing Club de Kinshasa RCK de faire face à la formation de FC Renaissance du Congo. Restons à la ligne à foot cette fois, hors terrain. José Mungalo de Bukavu a été sanctionné par la Ligue nationale de football Linafoot suite à des incidents survenus lors du match contre l'AS de Fenouar de Goma dimanche dernier au stade Le Volcan de Birere. La rencontre s'était arrêtée à cause de pénalty accordé par l'arbitre à l'équipe de Fenouar et les joueurs, surtout de Mungalo, n'ont pas apprécié cette décision. Vous allez suivre les sanctions qui sont tombées au niveau de la Linafoot dans nos prochaines interventions. Voilà, Jocelyne Moussa.
Merci, Kani. On termine avec le cours de change. Sachez qu'un dollar américain termine la semaine à 1559 francs congolais à l'achat et à 1622 francs congolais à la vente. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.